you dance and flirt. Tell you like I never did before. Oh no, no, no. Oh no. Say so, cause so, don't you know that I really love you so. We could milk the sound to lift you off the ground. I beg of you for stick around now. I stick around, stick around.
Thank you. plusieurs millions d'années. Il n'y a vraiment pas quoi s'inventer. Elvis Presley est mort aussi depuis plus de 10 ans passés.
One, two, come on!
Thank you. Une petite information de dernière minute, Marcel sera à la plage ce soir, à la plage, mais à celle de Quimplage. Toujours en direct de Radio Campus 106,6 en direct de Quimplage et nous accueillons dans nos studios déportés à Quimplage sous le cinéma Pax le réalisateur Jean-Charles Hu. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Parle bien devant le micro sinon...
Comme ça, c'est
ouais,
bon.
C'est bien. Excuse-moi. Et donc Jean-Charles, tu viens présenter un film qui s'appelle, rappelle-moi...
Carne Viva.
Carne Viva et qui relate quoi exactement
Alors,
on peut pas faire de la radio et aller voir les films. Et,
voilà, oui, c'est ça, c'est l'émission en même temps que la projection. Ouais. Je vais juste dire un mot pour concernant la projection. Oui. Qui, alors donc, c'est la projection a débuté depuis peut-être un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, on va dire. Et comme il y a un souci de lumière, enfin, on va pas s'en plaindre pour ceux qui sont dans la rue, mais il y a un souci de lumière à la géode, là où c'est projeté, ce qui fait que bon, le film est quand même amputé de son image à 50%, on est trop clair. Et donc, on a décidé avec les responsables du programme de refaire une projection de Carne Viva. Donc, soit à la géode de nuit, soit dans un autre lieu, qui fera que ce sera plus visible. Mais bon, je n'ai pas d'heure, de date Voilà. Et donc,
en tout cas,
ça sera annoncé par vos soins.
Exactement, il n'y a pas de problème.
D'accord. Et éventuellement par des petits papiers, on verra. Et puis,
voilà. Ben, écoute, dès que tu as l'information de là où se passe ce soir, tu reviens. Hein. Okay. Nous, on a l'antenne jusqu'à, on va dire, 19h en direct. Et donc, ton film est présenté actuellement donc, sous la géode. Et tu peux faire un petit pitch de ce film.
Alors, un petit pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est j'avais il y a 3 ans fait un premier voyage au Mexique, dans la ville de Monterrey, dans le Nord, et j'avais réalisé un documentaire qui faisait le portrait d'un couple, de personnes qui organisaient des combats de chiens, qui avaient leurs propres chiens et qui organisaient des combats de chiens. Et il se trouve que durant ce tournage, cette personne à qui je suis devenu assez proche, pour pas dire ami, m'a offert un présent qui est un couteau dont le manche a été fabriqué dans une colonne vertébrale de chien, parce qu'il avait un rite à la fois très personnel, enfin généralement c'est ça qui m'intéresse, c'est une espèce de rite païen, on va dire, une espèce de religion intime, personnelle, comme ça, qu'il entretenait avec ses chiens décédés, c'est-à-dire qu'il les enterrait toujours dans le même coin de désert. Et il allait régulièrement s'enterrer avec eux l'espace de quelques heures sous terre avec les ossements de ses chiens, comme une espèce de communion intime. Et il récupérait de ces ossements, donc un an, 2 ans plus tard, il récupérait toujours un os, un reste de l'un de ses chiens, et il fabriquait un objet usuel avec, pour garder l'âme de ses chiens au contact avec lui. Alors ça pouvait être un couteau comme autre chose. Généralement c'était un couteau, mais il y avait d'autres objets qu'il fabriquait, et là c'était un couteau. Et donc il m'a offert ce couteau-là, je suis rentré avec, évidemment, à Paris, et je me suis dit, bon voilà, déjà d'une part j'ai envie de retourner au Mexique pour faire un film, et je ne savais pas encore quoi. Et donc j'ai été attiré par 2 choses, par Tijuana, la ville frontière, son climat, surtout ce qu'on m'en avait raconté. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir avec ce couteau, qui est une espèce de couteau comme ça, qui a une histoire forte et qui parle de vie et de mort, en fait. C'est ça, hein, c'est de transition. Ce couteau-là, c'est un peu la vie du chien après la mort, quand même. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de chien qui continue à vivre à travers un objet. Voilà. Et moi, généralement, c'est ce que je fais dans tous mes films. C'est-à-dire, je m'attache à un objet, c'est le pitch du film, quoi. De chaque film, il y a un objet qui conduit une histoire, qui conduit un... Donc, le prétexte a été de prendre ce couteau-là, me pointer à Tijuana, que je ne connaissais pas, et voir ce qui allait se passer. Et donc, j'ai remis ce couteau-là à différentes personnes de la ville. Alors il y a eu une prostituée, il y a eu David, un Américain qui stagne dans Tijuana parce que tout y est moins cher, la drogue, les médicaments parce qu'il est malade, enfin ce genre de choses. Et ensuite je l'ai remis à un flic, et j'ai un commandant de police, et je l'ai remis au maire de la ville. Et donc, et chacun vit quelque chose de particulier avec ce couteau, et généralement qui est toujours à la limite entre vie et mort, puisque l'un est malade et voit dans cet os une espèce de rédemption, pas une rédemption, une espèce de greffe possible. Enfin, ça, c'est, faut voir le film pour comprendre, parce qu'il a besoin d'une greffe osseuse, en fait. Et donc il tripe complètement sur ce couteau qui, pour lui, est une espèce de système de greffe pareil qu'on aurait fait sur un chien, et ainsi de suite. Donc chacun est comme dans cette ville de Tijuana, finalement plongé sur cette limite où il y a à la fois on vit, parce qu'on vit bien à Tijuana, c'est quand même un lieu de fête, où on se sent quand même relativement bien, malgré le fait que tout autour, enfin la période où j'y étais, c'était la période la plus meurtrière à cause des narcotrafiquants qui se faisaient la guerre. Donc tous les matins, on retrouvait 10, 15, 20 cadavres décapités de narcotrafiquants, et parfois de policiers et de militaires. Et donc il y a cette espèce de drôle d'ambiance dans cette ville, d'ambiance ténue en permanence entre la vie telle qu'on la vit au Mexique, c'est-à-dire quand même avec beaucoup d'envie, d'engouement, de joie, etc., et la présence permanente de la mort, quoi, finalement, quoi. Et donc le couteau, il arrivait vraiment pour... donc ça les a pas surpris quand je leur ai filé le couteau. Quand je raconte l'histoire parfois à un Français ou à un Occidental, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas le même rapport à l'objet ou à la mort. Et eux, comme ils ont un rapport très différent, bah, voir ce couteau-là, ils ne trouvaient pas ça indifférent, mais ils trouvaient ça, bon, c'est pas mal, c'est sympa. Oui, pourquoi pas, après tout, le chien, sa réincarnation. Ils trouvaient ça tout à fait logique, vu qu'eux, ils vont faire la fête avec leur mort une fois par an.
Oui, c'est ça, et une culture la mort au Mexique qui est impressionnante, qui est, notamment à la Toussaint.
Exactement.
Ils célèbrent, il y a une fête, méga fête dans tout, c'est tout ça, le Mexique. Ouais.
Et il y a un endroit particulier dans une ville seule, une seule ville au Mexique que je n'ai pas connue, je ne suis pas allé, mais ils déterrent, en fait, ils ont déterré d'ailleurs les ossements de leurs ancêtres, des ossements qui ont plusieurs siècles d'ailleurs, et il y a le nom de chaque personne dessus, et ils ressortent que ce jour-là pour discuter avec l'os directement, enfin avec le défunt. Donc du coup, le couteau était assez, sans le savoir, assez à point nommé, enfin en même temps il venait du Mexique, donc c'est assez logique. Et donc du coup, voilà, pour moi ce couteau c'est une chose qui traverse la ville et qui dit à différents niveaux sociaux, parce qu'il y a quand même le maire qui est quand même un milliardaire connu là-bas, parce qu'il y a des casinos, il y a ce flic, alors que les flics, on sait très bien là-bas qu'il y a une corruption telle qu'ils ont plus de peur d'aller voir un flic que d'aller voir un narcotrafiquant. Et donc il y a chacun son rapport à la mort qu'il explique à travers ce couteau-là. À travers la lecture qu'il a de l'histoire de ce couteau-là, en fait.
Voilà. Justement, tout à l'heure, on a interviewé quelqu'un qui faisait un documentaire. C'est pas vraiment. Ça peut être aussi considéré comme un documentaire ou non ?
Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est.
Merci. Bah,
c'est une bonne question parce que dans tous mes. Enfin, je suis toujours amené à y répondre parce que de toute façon, dans les films que j'ai fait jusqu'à maintenant, là, c'est un premier long métrage finalement, mais tous les cours que j'ai fait avant, je suis toujours dans cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que ce que je fais toujours, c'est que je vis avec des personnes un certain temps. Là, je fais un film, d'ailleurs, un autre film, un long métrage dans le monde voyageur que je connais bien parce que j'ai de la famille là-dedans. Ça fait. Ce que je fais, c'est que je vis un certain temps avec des personnes jusqu'à. Je vis une aventure humaine d'abord, donc il y a cette dimension vériste, documentaire dans ce sens-là. Au bout d'un certain temps, je commence à filmer. Et ensuite, on va ensemble vers une proposition de scénario, de fiction. Mais on y va ensemble, c'est-à-dire au fur et à mesure, en fonction de chaque personne. Donc je me retrouve toujours avec des acteurs, si on peut dire, qui sont des non-acteurs, déjà, enfin, on va dire non-professionnels en tout cas, et qui, en fonction de leur fantasme propre et des miens, on trouve une espèce de voie commune pour aller jusqu'à la fiction. Donc il y a une part de fiction assez importante dans ce film-là, mais qui s'éloigne enfin, assez peu de ce qu'ils vivent, en fait. C'est comme si on collait un scénario plausible sur leur vie, quoi, finalement. Voilà. Donc, voilà. Mais il y a de la fiction, dans le sens où on remet en scène. Mais en même temps, le documentaire est habitué à remettre les choses en scène. Il ne faut pas croire que dans le documentaire, on ne dit pas, tiens, elle est mauvaise, on ne va pas la refaire. Dans le documentaire, tous les grands documentaristes, ils ne sont pas contents d'un truc, ils le refont 3 jours après ou dans la foulée, quoi. Mais voilà.
Alors moi j'ai une question, cette approche ethnographique que tu développes, ouais. Quasiment de l'observation participante active, c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Dans le langage scientifique.
Je savais pas, mais c'est pas mal.
alors voilà, quel est le lien entre ça? Comment se fait-il que tu as fini par développer une approche quasi ethnographique, y compris là de l'ethnographie d'objets?
Ouais, bah, je pense que ça c'est comme toujours, c'est le truchement de deux choses, c'est le, on va dire, pour le faire très vite, hein, ouais. À la base, l'inné l'acquis, c'est d'abord, d'un point de vue culturel, moi, tout ce que j'ai lu à un moment, enfin, dans ma vie, tout ce qui m'a plu, ouais. Les écrivains qui m'ont plu, ensuite les cinéastes, je me suis vite aperçu que, comme par hasard, c'était à chaque fois des gens qui, en fait, écrivaient un bouquin sur leur vie. Voilà, comme moi, je suis un fan de Céline, par exemple, Genet, et Rimbaud, voilà. Et donc, moi, je me dis, tiens, ou Laurence d'Arabie, Les Sept Piliers de la Sagesse, que j'adore. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est curieux, à chaque fois, je calque vraiment sur quelqu'un, mais ça peut être aussi Henry Miller, ça peut être Hemingway, dans une certaine mesure. Et donc, c'est à chaque fois des gens qui ont vécu quelque chose et qui ensuite ont fait une œuvre.
Oui.
Voilà, bon, après, il romance, bien évidemment. Céline, il prend un autre personnage qui n'est pas lui, enfin bon. Mais en attendant, c'est toujours basé sur leur vie.
Donc, sur l'expérience.
Sur leur expérience. Et en termes de cinéma, je raisonne un peu pareil. Donc, du coup, tout naturellement, en termes d'approche, un jour, si on veut créer, c'est ce que j'ai voulu faire en passant par les Beaux-Arts à un moment, je me suis dit, voilà, forcément, sans m'en rendre compte, je me suis dirigé vers ça. D'abord, vivre quelque chose avec. Vivre une aventure humaine, ouais. Et puis ensuite, en découle quelque chose qui est une construction créative. X ou Y, quoi. Mais
oui.
Voilà.
Oui, parce qu'en voilà. T'écoutant parler, en fait, on a l'impression d'entendre un ethnologue. Quelqu'un qui est allé au
mesure.
Contact ouais. D'indigène, ouais, ouais. Entre guillemets.
Moi, je suis un fan de Jean Rouch. Moi, un bon modèle pour moi, c'est Jean Rouch.
D'accord.
Voilà, c'est quelqu'un qui sait, non seulement il sait de quoi il parle, ouais. Mais il y a donné même sa vie, on peut dire, enfin oui. L'Afrique, hein, il a laissé même sa peau. Et en même temps, bah, il fabrique des fictions comme Moins Noir, qui est génial, là, tout oui. Ça. Il fabrique une fiction avec les gens qu'il rencontre. Voilà. Et ça, c'est génial. Quoi. Et c'est le truchement entre son fantasme, bon, on l'a accusé souvent d'avoir un fantasme blanc qui posait sur... Bon. Mais en même temps, c'est entre le fantasme, le sien, et celui des autres. Parce que moi qui suis aussi allé en Afrique, je vois bien que c'est pas du tout éloigné, même de l'Afrique d'aujourd'hui.
Oui.
Je voyais rien de faux dans le comportement ou les propos tenus par les Blacks qui étaient dans le film.
Oui.
Et je voyais bien que ils s'en étaient inspirés plus qu'ils n'avaient calqué des tripes de blanc sur celui d'un Black. Donc, moi, c'est ouais, des gens comme Jean Rouge, j'adore. Voilà, ça, c'est génial. Ouais, ça, c'est...
Alors, on accueille aussi dans le studio Raymond Desfossés, qui est l'organisateur de ce festival, cinquième du nom.
Et son chien.
Et son chien. Bonjour Raymond, tout va bien? Est-ce que tu visionnes, alors est-ce que tu as visionné le film de Jean-Charles Hue?
Attention, ce que a raconté le film de Jean-Charles Hue, parce que quand moi j'étais le premier de l'équipe à voir le film, et alors je vous ai entendu, c'est vrai que moi je l'ai rangé dans la catégorie docu-fiction. Je ne sais pas si c'est une belle appellation, mais en tout cas, ça. C'est ça. Mais je crois que c'est ça. Et en fait, je sais plus si bon, ce film, je ne sais pas comment on va le mettre, comment on va faire. Ensuite, il y a Rémi qui s'occupe de Place au cours, et qui l'a vu aussi. Il me dit, bah oui, c'est un documentaire, c'est Space, etc. Et tout. Puis le dernier qui l'a vu, c'est Benoît. Et on voulait présenter le film. Ça a été un doigt qu'on dise, on le met dans la compétition. Mais en même temps, on pense que ce n'est pas forcément le bon lieu. Parce qu'on va le mettre avec des fictions pleines, alors que en le mettant dans cette section en compète, ça ouvre le champ et ça permet une plus grande curiosité aux spectateurs. Et en fait, toutes les remarques sur le... on parlait de Jean Rouch, là, qui est accusé, selon la formule, parce que j'ai essayé de me faire Radio Sorbonne, moi aussi, d'ethnocentrisme, quelque part.
Oui,
c'est ça le terme.
C'est exactement ça.
Bon, quelques mémoires de... Mon passage sur le campus de Lille. Mais franchement, moi, ce film a touché. Parce que on est vraiment pris. On n'est pas dans un documentaire classique. On n'est pas dans une fiction. On est dans un autre monde. Et bon, ce que tu as dit là sur le rite autour du couteau, etc. et tout. Bon, je pensais l'avoir saisi un peu, mais j'étais pas sûr de mon coup. Apparemment, je me dis, bon, j'ai compris le film. Merci pour tout.
Et vous avez Jean-Charles, bon. Alors, vous avez prévu 4 couteaux, cas où
Non. Ça...
Alors, ceci, je vais ajouter que le film vient d'être présenté à notre corps défendant dans des projections difficiles. Et donc, on va le reprogrammer, mais vous le saurez via l'antenne, puisque c'est diffusé dans le cas. D'ici demain, on va refaire une projection de ce film qui le mérite amplement. Voilà, je voulais le dire.
D'accord. Donc Raymond, il y a Benoît qui devait passer aussi. Tu sais ce qu'il est devenu? Il a disparu? Il est au poste de secours?
Non, Benoît va venir un petit peu plus tard. On n'est pas obligé de faire un numéro de double pâte et patachon à chaque fois.
Ouais, parce que...
Oui, ça lasse.
Non, mais on peut le faire. Hein.
Ça lasse, mais pour nos auditeurs...
En plus, c'est copier-coller parce qu'on dit sensiblement les mêmes choses. Pas avec les mêmes mots, mais bon. Non,
parce que la base, il y a une grande amitié quand même entre vous deux, et ce qui fait que le festival de Cannes.
Ouais, c'est un peu bizarre comme relation. Ouais. J'ai l'impression que c'est une relation amicale, des fois j'ai l'impression que c'est une relation filiale. Enfin, c'est plus trop bien parce que moi je suis quand même le vétéran de l'histoire. Mais bon, ça marche, c'est le principal. Non, Benoît, il est en train de regarder Panique au village des Belges oubliés et pas tard. Et bon, parce qu'il voulait le voir, puis en plus. Il a la chance d'avoir ses enfants qui sont là. Donc c'est très bien, parce que Groland, finalement, c'est devenu aussi un festival familial, il faut le dire. On peut venir en famille, il faut le dire. Même si les enfants ont peur des gendarmes, ils peuvent venir.
Oui. Les gendarmes, je ne sais pas s'ils ont peur, ça les intéresse, non.
Je ne sais pas. Non, je pense que ce festival, bon, finalement, on a en 5 ans, bon, c'est toujours facile à dire, mais... On a formaté quelque part ce festival parce que bon, les premières années c'était un peu décousu, un peu. Mais en même temps, c'était un joyeux foutoir que tout le monde aimait bien. Quoi. Mais en même temps, c'était l'idée, comme départ, c'était de faire un festival de cinéma. Et donc, on a progressivement essayé de construire quelque chose qui se tenait. Bon, il s'avérait que Groland avait fait des tentatives qui n'avaient pas abouti ou qui n'avaient pas pu se poursuivre parce qu'il y avait un problème de lisibilité de la manifestation. C'était souvent collé avec un autre événement. Ils avaient fait un essai à Angoulême, ils avaient fait des essais de séances régulières à Paris dans des salles, etc. Et, tout. Bon. Et moi, je suis arrivé, bon, j'allais dire, au bon moment, parce que j'ai revu, presque 30 ans après, je veux dire, ça, les amitiés de 30 ans, ça fait un peu... C'est un peu louche. Quand on s'est retrouvé, bon, c'était... Ça, on est parti là-dessus, parce qu'avec Benoît, bon, on a parlé, bah, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je savais ce qu'il avait fait à peu près. En linéaire, je le voyais à la télé, lui, il ne savait pas trop ce que j'avais fait. Bon, il s'avère que moi, je suis passé à la fois par l'action culturelle, par l'éducation nationale, l'action culturelle, et puis après, carrément, une activité autour du cinéma, que ce soit l'exploitation, la distribution. J'ai touché à tous les volets du cinéma.
Toute la chaîne.
Donc, c'est là, toute la chaîne du cinéma, et c'est là qu'on s'est dit, Ah ben, moi, ça fait un moment qu'on rêve, on pourrait faire ensemble un festival de ciné. C'est parti complètement comme ça. Et je peux vous dire, c'était genre discussion au mois de février-mars. Et puis, en avril, c'était parti. En juillet, on n'avait pas un rond. Je me rappellerai toujours la première année, c'est quand on a démarré le festival. Je me rappellerai toujours, vous avez interviewé ce matin le président du conseil régional, Claude Devers. Mm-hmm. Ce jour-là, il est venu vers moi et il me dit, bon, on a voté cet après-midi la subvention du festival. C'est-à-dire que nous, on était partis, on n'avait pas une thune. On avait 20 000 euros qui étaient la participation de Canal, c'est tout.
Conseil régional de Picardie.
Conseil régional de Picardie.
Comme on aimait dans le Nord-Pas-de-Calais.
Voilà. Il faut et préciser. Bon, donc c'était un pari, ils avaient cru. Bon, en même temps, bon, moi, j'ai toujours travaillé dans cette région. J'avais fait d'autres manifestations qui avaient bon, connu plus ou moins de bonheur, enfin plutôt du bonheur que d'autres choses. Parce qu'il y a un festival à Lens. Un festival enfin, qui est originaire de Lens, qui s'appelle le Festival du cinéma jeune public, Festival Jeune de l'Aisne, qui a 25 ans, et dont je suis le fondateur avec Raymond Lefebvre, qui était un des pionniers du ciné-club en France après 45, qui écrivait dans la revue du cinéma, qui est un peu mon père spirituel. On a toujours un père spirituel quelque part, même si on ne veut pas l'assumer, on l'a. Et donc moi, j'ai vécu ça avec Raymond, on travaillait en tandem, bah, comme là, exactement pareil, et complètement en osmose. Et puis bon, ça s'est terminé. Moi, je suis parti parce que je trouvais qu'à un moment donné, ce festival-là était trop marqué par l'éducation nationale. J'avais pas envie de faire un truc éducation nationale du tout. Ensuite, c'est surtout que l'éducation nationale, c'est beaucoup de discours et pas beaucoup de sous. Pas beaucoup de sous au sens, on veut beaucoup de choses, on impose beaucoup de choses, mais on ne donne pas les moyens de faire. C'est ça, en fait, quand je dis ça. Hein. Et donc, on a fait ça pendant des années. Le festival existe toujours, il a presque 30 ans maintenant. Il est en 83, donc j'ai du mal là-dessus, mais 26 ans. Il a 26 ans. Bon, c'est bien. Bon, moi, je suis arrêté au bout de la 9e année. J'ai dit à Raymond Lefebvre, je ne suis pas fâché avec lui. J'ai dit, ça tourne mal. Donc, pour moi, ça tournait mal. Il a continué quelques années. On s'est revu après. Il m'a dit, tu avais raison. Pendant ce temps-là, moi, j'avais créé un autre truc qui était enfin, comme ça par envie, hein, par désir, mais toujours sous influence. Une semaine du cinéma britannique. Pourquoi j'ai fait une semaine du cinéma britannique? Parce que j'étais à Abbeville. Et puis en même temps, parce que bah, j'avais travaillé avec Raymond, et Raymond avait fait un bouquin qui s'appelait 30 ans de cinéma britannique, qui correspondait à toute la période du cinéma anglais, de 45 à 76. Et je connaissais son bouquin par cœur, parce que je l'avais lu, j'avais relu. Et donc, quand j'ai fait cette manifestation-là pendant quelques années, pendant 7 ans, j'avais notamment réussi à faire venir Peter Watkins. Et Raymond, qui avait écrit sur Peter Watkins, n'avait jamais rencontré Peter Watkins. Et ça a été ma façon de le retrouver, de le faire revenir et puis d'avoir de nouveaux échanges. Donc l'histoire de Groland, c'est un peu la même en fait. C'est des rencontres, des envies et puis une histoire d'homme, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de trucs comme ça. Si on crée des trucs artificiellement, il y a plein de festivals qui sont créés artificiellement. Je vais vous donner pour le plaisir deux exemples. En 1973, a été créé le festival d'Avoriaz. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du festival d'Avoriaz? C'est très rapide, ça va vite. Le festival d'Avoriaz, c'est des promoteurs immobiliers. Je donne leur nom, je les dénonce. C'est nos partenaires aujourd'hui. Ça s'appelle Pierre et Vacances. Ils implantent un truc dans un hameau qui s'appelle Avoriaz, mais qui est en fait un lieu dit de Morzine. C'est Morzine. Ouais. Maintenant on dit Morzine Avoriaz, mais la commune c'est Morzine. Et ils font appel, les mecs ils disent, merde, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce truc-là? On a construit des immeubles, il n'y a pas un rat, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils font appel à une boîte qui s'appelle Promo 2000, un mec qui s'appelle Lionel Chouchan, et lui disent, voilà, on est emmerdé, on a notre truc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on crée un événement. Le mec arrive un soir en bagnole là-bas, et en fait il arrive dans le froid, la neige et tout, enfin une ambiance de brouillard et tout. Il arrive, il voit des espèces d'immeubles dedans, et puis ça cogite dans sa tête, et il leur vend l'idée du festival du film fantastique. Et ce truc-là a duré, côté people, machin, on logeait les gens dans les trucs Pierre et Vacances et tout, j'allais dire un peu comme ici aussi, mais le problème c'est que nous on n'est pas dépendants de Pierre et Vacances. Le problème c'est que Pierre et Vacances c'était un partenaire comme d'autres, tandis que là c'était le promoteur du festival, comme ils sont promoteurs par ailleurs. Et ce truc-là a duré, allez, 15 ans. 15 ans après, Pierre et Vacances n'a plus besoin du festival, il n'y a plus de festival. Ouais. Bon, ben, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est Cognac. Cognac, c'est, à un moment donné, les fabricants de Cognac, trois exemples, je vous en donne.
Ça va, on a le temps. Je vous fais un prix.
On a le temps. Je vous donne Cognac, parce que je ne veux pas être méchant avec... Promo 2000, je voudrais un bon exemple. Enfin, un bon exemple, si on veut. C'est Cognac. Cognac, c'est quoi? C'est à un moment donné, la production de Cognac, parce qu'on est dans une période répressive en France, un peu, même partout, un peu partout, sur l'alcool, la production de Cognac ne marche pas. pareil, les mecs, ils ont dit, putain, Avoriaz, ils ont trouvé un plan, ils ont rencontré Lionel Chouchan, il leur a trouvé le plan Avoriaz, ça marche et tout, on va avoir recours à Chouchan. Chouchan vient, il leur monte un truc, dans la région de Cognac, il y a plein de petits châteaux, de machins, etc. et tout, tous les fabricants de Cognac se mettent à raquer comme des malades, et il dit, on va loger les gens chez vous, vous allez voir les invités et tout, et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme thème? Un château, machin, hanté, film, festival du film policier. Le festival du film policier, comme vous le savez, vient de s'arrêter. C'est-à-dire que là, on est dans l'éphémère toujours. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de fond, parce qu'il n'y a pas de racines à ce festival. Si on veut créer des racines, il faut trouver quelque chose. Si on est ici, nous, avec Benoît Delépine, bon, on peut nous reprocher des moments d'avoir des aigreurs et de vouloir partir et de vouloir faire autre chose ailleurs, parce que c'est vrai que là, on est dans des conditions extrêmement difficiles pour créer un festival. Il n'y a rien, on est dans l'éphémère. On est dans l'éphémère, c'est le point que moi je prends toujours cet exemple de Raphaël Sorin qui sur son blog de Libé avait dit je suis allé à Quin, c'est un festival improbable, dans un lieu improbable, avec des films improbables. Excuse-moi pour le film improbable, j'en sais. Mais c'est vrai que c'est ça un peu. Et ça se remplace pas. Ça, c'est pas des promoteurs, c'est pas des mecs comme ça qui vont faire le cinéma. Je parle comme Moki, je vais arrêter. Non, mais c'est. Mais bon, ça déteint, hein, Moki, c'est. Mais oui. Ça bien, hein, des Moki. Moi, j'ai entendu sur votre antenne, moi, je signe dès demain tout ce qu'il raconte, hein, sur le cinéma. Oui, hein.
Excellent.
Bon, il est pas tombé dans ce que raconte Claude Dantlara, c'est bien. Il est quand même sur une ligne. Bon. Et vous voyez, j'ai donné deux exemples. Et puis après, il y a des festivals qui sont des festivals de rencontres amoureuses avec le film, de gens qui sont passionnés parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Nous, quand on est parti, c'était cette retrouvaille avec Benoît, c'était le lieu. Alors pourquoi Quin? Bah parce que, il s'avérait qu'il y avait, en faisant le tour un peu toutes les possibilités, il avait passé ses vacances à Quin. De mon côté, je donnais un coup de main pour le fonctionnement de la salle pendant l'été. Parce que c'était ma femme, à laquelle je rends hommage, parce qu'elle est là-dessus en train de vendre des tickets, j'allais dire bientôt jour et nuit, et dans c'est des t-shirts.
Hélène.
Mais
Hélène.
Hélène, voilà. Hélène. Et c'est parti sur une passion, sur une histoire, une fusion. Et là, on peut faire des choses. C'est là qu'il y a des vraies choses qui se passent. Sinon, le reste, on est que dans l'artificiel. Et dans les rencontres qu'il y a ici à Groland depuis 5 ans, c'est que même les mecs qui sont venus les premières années, qui ont connu des conditions épouvantables, où des fois on galérait comme des malades. Moi je me rappelle d'une année où il y avait Arabal, Francesco Arabal. 1h30 du matin, téléphonant avec son accent espagnol, je suis au perdu, je ne sais pas où je dors. Bon, ça c'est extraordinaire. Et puis Arabal, bon, aujourd'hui il est toujours soutien du festival comme d'autres. J'ai revu, justement les réalisateurs de Panique au Village, oui. Ils sont venus la première année. Et j'ai revu, alors, il avait fait un documentaire, un dromadaire, qui est passé d'ailleurs à l'espace Place au Cours. Et ils étaient interviewés, ils disent dedans, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas quand on passe les films, on ne sait rien, c'est un joyeux bordel. Mais ça m'a fait marrer de voir ça, parce que je suis allé les revoir, je dis alors, c'est toujours, ah non, là c'est mieux quand même, on est bon. Mais on est toujours un peu dans un joyeux bordel, mais c'est bien. C'est pas, on n'est pas à Cannes, c'est tout, on fait autre chose.
Moi j'avais une question à Raymond, hein. c'est quand est-ce que Raymond tu vas écrire un livre sur le cinéma français d'à côté avec toute l'expérience que tu as sur le cinéma français?
Je ne sais pas écrire. Je ne sais ni lire ni écrire.
Il faudra attendre un film.
Non, c'est pas ça.
En parlant d'écriture, justement, de 16h à 16h30, là, il y a une dédicace à la librairie grolandaise de Jackie Berroyer et Rémi. Elle est suivie à 17h et à 17h30 d'une dédicace de Buzet Benoît. 17h30 jusqu'à 18h, JO à la librairie grolandaise. Voilà, donc c'était une petite annonce qu'il fallait faire.
Ce qui me permet de faire le lien, c'est qu'en même temps qu'il y a le film, il y a d'autres aventures. C'est-à-dire que, tu viens de le soulever, bon, c'est une boutade, je te signale qu'il y a 12 ans, j'ai fait un ouvrage sur le rock et le cinéma.
Oui, bah,
il s'appelle Rock Étoile, bon, qui est un souvenir épique pour moi dans la façon dont je l'écris, parce que j'écris ça dans l'urgence. C'est un livre de commande, c'est pour un éditeur qui n'existe plus maintenant, Le Drapier. Et c'était parce que j'avais un ami qui s'appelle Philippe Lacoche, qui était éditeur, qui était directeur de collection. Et au départ, il voulait faire écrire un bouquin sur le rock. Il me dit, mais ouais, c'est un truc, tu connais bien le rock et tout. Et puis, j'attends, si je fais un seul bouquin, je le ferai sur un mec, je ne vais pas vendre un bouquin. C'était sur Van Morrison.
D'accord.
Donc, je suis un fan, archi-fan depuis 30 ans, enfin 35, j'ai dit 30 ans, je ne sais même plus dire, 40 ans.
Tiens, on en a
j'ai des gens qui... Vous ne pouvez pas passer un Mystic Eyes ou bien une touche de mystique, ouais, c'est ça.
On va essayer de trouver ça, ouais. D'ici,
mais,
la fin du festival.
Mais donc, il y a ces choses qui vont à côté. Et l'exposition de Rémy, nous, depuis 2 ans, c'est pareil, là, on est dans des conditions folkloriques. On est dans un lieu qui, en fait, un lieu tous les ans est à vendre. On ne sait pas si au moment du festival, il ne sera pas vendu. Et en fait, à un mois, on dit, on bouge pas jusqu'à la dernière minute, on annonce l'expo Rémy. Et 15 jours avant, on va voir le mec, on dit, il est toujours libre, votre truc. Ah, lui, il dit, bah oui, vous pouvez nous le filer, oui. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est 0 centime, et puis on monte à un truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette expo. Elle est magique. Bon, bah, je crois que c'est ça. Et puis je remercie, parce que moi, en même temps, c'est des aventures avec des amis ou avec des gens que... Bon, les expos, par exemple, depuis plusieurs années, c'est Marguerite Ducroquet qui est là, bah, d'ailleurs un peu plus loin, et puis Stéphanie Davergne, qui me donne un coup de main. Bon, ils me trouvent chiant et tout ce qu'on veut, mais à chaque fois que je leur demande, ils me disent « Bon, bah oui, on va venir quand même ». Et puis donc, ils me montent un truc extraordinaire, ils m'ont aménagé des lieux impossibles pour faire des expos. Bon, c'est ça, et la librairie, c'est la même chose. Bon, la librairie, on s'est dit la première année « Mais merde, pourquoi il y a des livres ? Comment on fait les films ?» Les films qu'on présente, c'est les films qui passent pas dans toutes les salles. Bon, les bouquins, c'est la même chose. Les bouquins qu'on présente, qui vont être signés là, ils sont noyés dans la masse, hein, entre les best-sellers, les 10 premiers meilleurs ventes. C'est le cinéma, le livre, le disque, c'est la même chose. Les modes de commercialisation sont les mêmes, les modes de distribution sont exactement les mêmes. Et donc, si on fait, nous, le film, ça paraît cohérent qu'on fasse le livre. Voilà, c'est tout.
Alors Jean-Charles, comment ça s'est passé pour présenter ton film au festival ? C'est toi qui as présenté le film à Raymond ?
Non, du tout. Alors là,
c'est eux qui t'ont... C'est la prod
là,
ou...
c'est encore un peu un mystère. Je crois que ça n'a même pas été la prod directement. On me l'a dit, c'est via l'un de nos proches ou un endroit où on l'avait envoyé, je ne sais plus.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai reçu le film. Je me suis dit, d'où il vient ce film-là ? Mais on est vraiment d'où il vient. Je l'ai regardé. Bon, après, j'ai regardé. J'ai dit, mais... Qui l'a reçu ce film ? On a fait carrément fait un travail d'enquête, hein, je peux te le dire à ce moment-là.
Non, c'est souvent, enfin pas souvent le cas, mais là on avait fait une projection à Paris, et en fait, à partir de là, des personnes qui l'avaient aimé appellent ou envoient le film à des gens qui, leurs proches qui ont un festival ou autre, en fait c'est comme ça, c'est bouche à oreille en fait.
D'accord.
Voilà.
Et ton film, en dehors du festival, on pourra le voir où ? On pourra
Alors,
le voir
bonne
quand,
question. Pour l'instant, on l'a montré qu'une fois à Paris, mais donc c'est. Il a été pris dans un autre festival à Montréal, Festival International de Montréal. Ouais. Et puis on attend une réponse pour l'Italie. Et mais pour la France, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates, mais on va refaire une projection dans les mois qui vont venir. Parce que par ailleurs, je monte mon travail aussi dans le monde des. Je suis, on va dire, vidéaste, pour le dire comme ça. Moi, je préfère dire que je suis cinéaste, mais cinéaste. Et je monte mon travail aussi dans le monde des galeries d'art. Et ou des musées, voilà. Et donc je vais organiser dans ma galerie une expo personnelle dans les mois qui vont venir où je vais montrer un certain type de travail. Et on va faire en même temps la projection de ce film-là dans un autre lieu qui sera voilà, histoire de lier un peu les deux mondes qui sont pas antagonistes mais qui sont pas non plus les mêmes lieux de projection de représentation. Quoi.
Alors par exemple, s'il y a un lieu qui voudrait projeter ton film, il contacte la production.
Oui, ADR Production.
ADR Production.
ADR, oui.
Ok, voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, moi, ce que je pense...
Moi, j'ai une question.
T'as une question
à Raymond, parce que... oui, Raymond, là... Louise Michel, c'est une histoire d'amour avec toi ou...
Alors, Louise Michel... non, Benoît et Gustave ont écrit le scénario. Et puis, quand moi, ils m'ont montré... Parce qu'en fait, le début de mes retrouvailles avec Benoît a coïncidé avec le film précédent avec Avida. Mmh. Et dans Avida, bon, moi, j'avais simplement deux choses, et ça m'a vachement touché. C'est d'une part, bon, j'ai fait les repérages de la dernière scène qui se passe pas loin d'ici, entre Mers et au Bois de Cise, un lieu dit qui s'appelle le Bois de Cise. Donc j'avais trouvé ce lieu-là. Et ce qui m'avait touché à l'époque, c'est que quand le film a été fini de monter, j'étais la première personne à qui Benoît avait montré le film. Alors ça m'avait vachement touché. Et après, sur Louise Michel, quand il a écrit Louise Michel, bon, ils sont toujours deux, et bon, mes relations avec Benoît sont différentes de celles que j'ai avec Gustave, même si avec Gustave, ça s'est amélioré, parce qu'au début, bon, j'étais un peu le troisième homme qui arrivait dans le circuit, parce que c'est... Eux, ils sont complètement en fusion, quoi. Ils disent toujours. Mais bon, c'est bien, c'est différent, quoi. C'est autre chose, c'est un autre type de relation. Et sur Louise Michel, en fait, moi j'ai travaillé, j'ai défendu le truc de dire, bon putain, pourquoi on fait pas ce film-là en Picardie ? Et donc j'ai travaillé avec eux sur tous les repérages, tous les lieux. L'usine qui a été trouvée, c'était une grosse galère pour trouver une usine, parce que trouver une usine avec l'histoire de Louise Michel, excusez-moi, en activité, mais c'est gratiné. Bon, il s'avère que, par relation, j'avais une amie qui s'occupait d'association de demandeurs d'emploi dans la région, là, qui m'a dit, mais attends, il y a telle usine, là, où ça a été repris par les relais. Les relais, c'est une émanation d'Emmaüs, etc. et ouais. tout. Et peut-être ça va le faire. Donc, je suis allé voir les relais, ça a bien fonctionné. Après, Benoît est venu aussi. Après, il a fallu convaincre, parce que c'est quand même une chaîne, les relais. C'est né dans le Nord, c'est un truc très particulier. Et on a emballé les trucs. Bon, il y a eu plein de scènes comme ça. Il y a eu une autre scène marrante, c'est quand Benoît a voulu tourner au Familistère de Guise. Parce que pour lui, en même temps, c'était Louise Michel. Il racontait une histoire, mais en même temps, il a raccordé à la mémoire ouvrière, c'est-à-dire à ce qui s'était déjà passé, ou des choses. Et donc, par exemple, l'histoire du Familistère, c'était quand même l'histoire du fourriérisme, d'une forme utopique, on va dire, complètement utopique.
Godin aussi.
Godin, c'est ça, c'était Godin. Donc il voulait absolument tourner là-bas. Et voilà qu'il fallait...
Rien à voir avec Noël Godin.
Hein ?
Rien à voir avec Noël
Godin. Rien à voir avec Noël Godin. Et il fallait donc tourner là-bas. Mais voilà que, il n'y a pas sous la touche. Moi, j'appelle donc le mec qui est président du... Parce que c'est un site, maintenant c'est devenu un site culturel, tu vois. Ah, oui. Et donc j'appelle le type qui est président, qui est un député de l'Aisne, de tirage, avec lequel j'étais au lycée, bon... Je lui appelle au téléphone et je commence à lui parler. Il dit tes copains de Groland, machin et tout. Pas question de venir au Familistère de Guise. Je dis attends, qu'on vienne te présenter le scénario. Bon, venez à l'Assemblée, on va en parler, etc. Bon, on a passé une journée à l'Assemblée, bon, déjà folklorique avec Benoît Aiguse, parce que déjà quand on est arrivé, tous les mecs se demandaient ce qu'on venait faire. Ah, surtout eux, parce que moi je suis inconnu au bataillon. Et ils collaient les autocollants partout et tout. Les mecs, il y avait des huissiers qui nous suivaient pour arracher les autocollants. Bon, on a parlé avec le député, finalement, non seulement on a eu l'autorisation de tourner, mais en plus, on a commencé à parler de ça, on a dit, bon, il y a la région qui va nous soutenir, parce qu'entre-temps, on a eu la région Picardie, qui a donné son accord, et puis, j'ai dit, bon, mais on manque un peu de sous quand même, tu sais, moi, à la fin, je dis, bon, tant qu'à faire, autant lui dire, c'est qu'il manque un peu de rond et tout. Le mec, il est ancien président du Conseil général de l'Aisne, il est sur le téléphone, il appelle le directeur de cabinet du nouveau président, il dit, dis donc, machin, il me semble qu'il reste une ligne de crédit, tant et tant, donc on s'est retrouvé avec 50 000 euros de plus. D'accord. Bon, c'est ça. Mon rôle, c'est après, le film s'est tourné. Pour la ligne, il y a eu des scènes tournées à Quin. Puis, bon, j'ai été voir le tournage. Puis après la post-production, j'ai fait toute la campagne des avant-premières sur la région parce qu'il y avait des engagements à respecter vis-à-vis de ceux qui nous avaient financés. Donc, c'est tout. Mais pour moi, les UCL, c'est une belle aventure parce qu'en même temps, à côté, on a fait des trucs extraordinaires. On a fait des trucs avec... l'équipe de Daniel Mermet là-bas si j'y suis et des rencontres avec des travailleurs. On a rencontré les mecs Benoît et Gus rencontrant les mecs de Goodyear et de Dunlop. Je peux vous dire, c'est quand même des moments d'émotion parce que les mecs, c'est pas des bluffeurs, ils racontent pas de conneries, ils sont pas là pour la frime. Il y a eu vraiment des vraies rencontres.
Voilà. Dommage que Fajardi soit mort parce que si Fajardi était là, je pense qu'il viendrait à Groland et à mon avis, il y a quand même pas mal de choses à faire avec lui aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Donc,
non, parce qu'en même temps, je regardais sur ta veste, t'as une Louise Michel en badge. Donc, c'est aussi cette question que je posais du fait que Louise Michel, qui est un personnage de la Commune de Paris, qui était fortement intéressant.
Moi, le personnage de Louise Michel, il m'intéresse pour la Commune de Paris, pour ce qu'elle a fait après, même quand elle était
en Nouvelle-Calédonie.
En déportation. Quand elle est revenue de déportation, parce qu'elle a quand même été encore. En fait, jusqu'à la fin de sa vie, très engagé. Moi, je n'aime pas le mot engagé, il ne veut rien dire le mot engagé. Tout le monde engagé.
Qui s'est investi dans.
Il était investi dans plein de trucs.
Ouais.
Et donc, c'est un personnage, effectivement. C'est le personnage, c'est la femme.
Ouais.
Je dirais, bon, il y a quand même. Si on fait un historique des femmes comme ça sur deux siècles, il y a la première, c'est Olympe de Gouges, qui était une femme dans la Révolution française, qui avait pondu la Déclaration des droits de la femme.
Ouais.
Hein, qui a fini sur l'échafaud quand même,
oui.
qui avait écrit plein de trucs, etc. et tout. Et c'est effectivement Louise Michel, et puis je dirais c'est Rosa Luxembourg quand même.
Oui, ouais. Qui est une suite logique.
Voilà, il n'y en a pas eu énormément, effectivement. Le fait que ce soit une femme, c'est...
Bon, sinon Raymond, en l'état actuel des choses, je ne sais pas quelle heure il est, ça se passe bien?
Moi je trouve qu'il y a quand même du monde dans les salles. Bon, surtout qu'il fait très beau, alors j'avais un peu peur. Ça nous pose un problème pour un lieu, mais on l'a vu avec Jean-Charles. Ouais. C'est la géode, parce qu'on s'est dit, bon, la vidéo, ça devrait passer. Mais il fallait pas qu'il fasse trop de lumière, qu'il y ait trop de lumière. Il suffirait, je ne veux pas souhaiter de la pluie pour ce soir, mais quelques nuages nous faciliteraient la vie.
Ouais, attends, ça continue jusque demain, donc il faut...
Voilà. Mais je pense qu'on va rapatrier le film de Jean-Charles pour une nouvelle projection en salle, parce que d'abord, je défends ce film et je pense qu'il le mérite. Et puis je pense que aussi les spectateurs qui l'ont vu ont besoin de le revoir dans des conditions normales. J'en ai rencontré quelques-uns et ça va se faire, quoi. Ils vont revenir. Voilà.
Ok, bon, ben, on vous remercie tous les deux. Raymond, merci. Tu repasses quand tu veux.
Ah oui,
ben,
la porte est ouverte.
Benoît, la porte est ouverte. Oui. Raymond, t'es content de la prestation de Radio Campus
Écoute, je l'avais dit quand on s'est rentré la première fois. Radio Campus, bon, 40 ans, quelque part, ça me rappelle mon arrivée à Lille, à l'université, à l'époque, quand la fac de lettres était rue Saint-Geolier, de mémoire. Il y avait deux restos U pas très loin. Il y avait le resto du Nef que j'ai beaucoup fréquenté, hein, pour manger le couscous, je ne sais plus quel jour, mais il y avait la journée couscous, tout le monde s'est arrivé vers l'heure. Rien que de voir la queue, on savait que c'était couscous ce jour-là. Et donc c'est des souvenirs, et j'ai écouté votre radio, et je me rappelle aussi des militants lillois, même si moi je n'ai jamais été fan, je ne me suis jamais investi dans les radios, parce que je suis pas, d'abord, ce n'est pas mon truc, mais... Je me rappelle, bon, l'autre jour, je t'ai parlé de Pascal de France. J'étais en fac avec Pascal de France. Donc, qui a été un des historiques de la radio dans le nord de la France.
Très bien. Merci, Raymond. Quand tu veux, tu repasses. Jean-Charles, pareil.
Éventuellement,
j'invite tous les auditeurs, auditrices à aller voir ton film quand il passera là où ils sont. Éventuellement, dans l'Olympique Calais, pourquoi pas, sur l'île ou aux alentours de l'île. Et on te souhaite un bon festival.
Merci.
Et tu repasses si tu as envie de dire des choses. Tu sais, nous, on est très culture mexicaine.
Oui,
pour la preuve.
Oui, la preuve, c'est vrai. Vendredi, on avait l'émission.
De la culture mexicaine que tu as bien dû connaître à Tijuana. Alors, moi, tu vois, on a le masque de Blue Demon, qui est d'ailleurs Blue Demon, un catcheur qui est mort, qui fait.
Ah oui, Blue Demon, c'est
Blue Demon.
Ah, je l'ai, moi, Blue Demon, je l'ai.
Fait l'objet d'un culte incroyable, même des années après sa mort.
Pour voir les films.
Oui, c'est extraordinaire.
Moi, je propose que tu fasses un film au Mexique.
Ce soir.
Un film au Mexique sur une cagoule de catcheur au Mexique.
Why not?
Pourquoi pas?
Ah ben, je suis pour moi.
Merci Jean-Charles.
À bientôt.
Bon festival.
Merci
à bientôt.
À
au revoir.
myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.